Radio Okapi. 12h à Kinshasa, Babel Mpongo pour les journaux. Okapi.
Bonjour, la situation au Nord Kivu, toujours à la une de l'actualité. Avec le secrétaire exécutif de CIRGL, nous parlons des mécanismes du retrait de 1-23, tels qu'exigés dans le communiqué ayant sanctionné la rencontre des chefs d'État congolais, rwandais et ougandais. Vous suivrez aussi Hervé Latsou, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du maintien de la paix. Il explique les priorités de la MONUSCO, notamment en ce qui concerne la protection des civils. Dans ce journal, nous serons aussi à Goma pour faire le point de la situation et vous suivrez également ce qui se passe dans les autres coins de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi sur nos antennes, le communiqué final des trois chefs d'État, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Paul Kagame du Rwanda et Joseph Kabila de la RDC, exige du 1-23 le retrait de ces éléments de la ville de Goma et la cessation de toute hostilité. Mais comment ou par quel mécanisme le 1-23 doit-il procéder à ce retrait? C'est la question posée au secrétaire exécutif de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, CIRGL. Écoutez la réponse de Toumba Luaba au téléphone d'Innocent Linga.
De façon volontaire, il devrait déjà commencer à effectuer ces mouvements de retrait. Ensuite, sur terrain, comme vous avez vu, on va leur signifier un plan opérationnel. Mais déjà, ils peuvent faire montre de bonne volonté, commencer à se retirer.
Mais au cas où les M23, vous du succès, refuseraient de se retirer.
Oui. Un grand sommet spécial qui va se réunir ce samedi avec tous les présidents, les chefs d'État de la CIRGL. Le M23 devra faire preuve de bonne volonté, sinon ils vont s'exposer à des contraintes, c'est-à-dire des sanctions, et qui peuvent aller jusqu'à l'usage de moyens beaucoup plus forts, notamment le recours à des bataillons qui sont déjà disponibles dans certains pays.
La MONUSCO reste à Goma pour alléger les souffrances profondes des populations civiles. Réaction d'Hervé Latsou, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du maintien de la paix, au cours d'un point de presse hier à New York. Il a par la même occasion expliqué davantage le mandat de la MONUSCO et ses priorités, notamment en ce qui concerne la protection des populations civiles qui souffrent profondément. Un extrait de cette interview choisi par Nadine Foulantimba.
Il est clair qu'il y a actuellement une série d'initiatives diplomatiques. Il y a eu la réunion ministérielle de la conférence à la des Grands Lacs. Il y a eu un sommet des trois chefs d'État concernés, un sommet en présence avec la participation active d'un émissaire personnel du secrétaire général. Il faut espérer qu'entre tout cela, des solutions politiques vont se dégager, car clairement la logique militaire ne nous permettra pas de sortir de cette situation douloureuse.
Vous avez dit aujourd'hui à plusieurs reprises au Conseil de sécurité dans un point de presse que la MONUSCO était plus que jamais motivée pour protéger les populations civiles.
La MONUSCO reste à Goma. Je crois que c'est cela le message. Elle reste à Goma avec la volonté de se concentrer sur la partie du mandat qui en est l'essentiel, qui est la protection des civils. Donc il est important que nous soyons informés du maximum d'événements qui se produisent, de violences qui sont sur le point de se déclencher, pour pouvoir par notre présence essayer d'alléger des souffrances qui par ailleurs, je le mesure bien, sont profondes et qui sont plus que jamais inacceptables. Mais les responsables en seront tenus responsables.
Ici à Kinshasa, une dizaine de femmes congolaises en tenue de deuil ont passé la nuit devant le quartier général de la MONUSCO. Elles y sont encore en ce moment. Elles disent être touchées par l'occupation de Goma par le 1-23, soutenue par l'armée rwandaise. Pour mettre un terme à la guerre en RDC, ces femmes dont les structures ne sont pas révélées demandent entre autres à la communauté internationale l'application du chapitre 7 des Nations Unies qui autorise le recours à la force pour imposer la paix. Leur représentante Monique Kandi a confié leurs revendications au micro d'Askenzi Gatayoro.
Ils sont venus pour dire que assez, c'est assez. Nous sommes assez de voir les femmes souffrir à Goma. Et entre-temps, la communauté internationale tout entière, ils ne font que signer des papiers, faire des résolutions. Nous sommes fatigués des résolutions. Nous voulons des actions concrètes. Quelles sont les actions que nous voulons? Nous voulons d'abord M23, les troupes rwandaises et ougandaises, quittent immédiatement notre territoire, libèrent Goma. Comme la situation se présente, applique le chapitre 7. Nous demandons à la SADC d'appliquer l'article 6. Si on n'applique pas le chapitre 7, la Monique n'a pas raison d'être. Nous allons rester ici jusqu'à ce que la communauté internationale décide, puisque nous pensons que cette guerre, c'est d'abord la communauté internationale qui a permis que les gens entrent dans notre pays.
Deux jours après la prise de Goma par les rebelles du 1-23, comment se présente la situation dans les autres parties du pays? Eh bien, d'autres localités se réveillent ce jeudi pour exprimer leur ras-le-bol face à cette chute. En ce temps, aux environs immédiats de la ville de Goma, la situation reste tendue, tandis que la vie reprend petit à petit son cours normal dans les villes où des manifestations ont eu lieu hier. Le point dans ce condensé de Jacques Mounima.
D'abord, journée ville morte à Issirou en province orientale, en signe des protestations contre la chute de Goma sur initiative de la société civile. Écoles, marchés, services publics et privés ne fonctionnent pas. Seul l'hôpital général de référence, les centres de santé et l'aviation sont autorisés à organiser un service minimum. Au Sud-Kivu, la calmie s'observe ce jeudi dans la ville de Bukavu après une journée fortement agitée la veille. Les écoles, les marchés et les magasins fonctionnent comme d'habitude. La police ainsi que les autorités communales procèdent à l'évaluation des dégâts enregistrés lors des manifestations dans plusieurs rues et avenues de la ville. L'inventaire des dégâts, c'est ce qui s'est fait aussi ce jeudi à Butembo au Nord-Kivu. Selon la police, plusieurs bâtiments publics et privés ont été partiellement endommagés. Certains d'autres ont été sauvés de justesse grâce à l'intervention de la police. Pendant ce temps, le calme règne à Walikale Centre, ce après une vive tension observée hier dans la cité. Enfin, malgré le calme apparent qui s'observe à Minova au sud de la ville de Goma, l'on signale des affrontements à l'arme lourde entre l'alliance Nyatura et les Maï Maï de janvier contre les rebelles du M23 vers Mushaki, Ngungu et Karuba à Masisi.
Sur place à Goma, les activités socio-économiques reprennent progressivement. Dans les marchés, certains produits vivriers commencent à se raréfier, entraînant du coup une augmentation des prix. De leur côté, les responsables du 1-23 appellent tous les opérateurs économiques, les services publics de l'État et les banques à reprendre le service. Les commerçants, eux, déplorent quelques cas de pillage. Bernard Agnelli.
Au poste frontalier dit Petite Barrière à Goma, nous avons observé ce jeudi matin une longue file de petits commerçants qui attendent sagement. Tous jetons d'entrée à la main, ils entrent au Rwanda pour s'approvisionner en produits vivriers de première nécessité. C'est entre autres la tomate, les poireaux, la pomme de terre, les bananes plantains, etc. En effet, depuis le début des affrontements, jeudi, dans la région de Goma, ces produits vivriers se sont raréfiés sur le marché et le peu qui y en avait ont vu leur prix grimper. Au centre commercial de Birere, tout comme au marché central, au moins 80% de commerces sont ouverts ce jeudi. Seulement, certains commerçants déplorent le vol de leurs marchandises la nuit dernière. Deux boutiques ont été aussi forcées et pillées lors des affrontements dans la ville de Goma lundi et mardi, dit le président des boutiquiers. Ce jeudi matin, le département de communication du M23 a réuni les agents de la territoriale, les opérateurs économiques, les banquiers et les régies financières de l'État. Il leur demande de reprendre le service de ce jeudi. Goma, Bernard Dengani, Radio Capi.
Du côté des humanitaires, le Comité international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge de la RDC demandent plus de sécurité pour leurs volontaires et les populations civiles. Dans une déclaration commune aujourd'hui à Radio Capi, ces deux organismes énumèrent certaines actions qu'ils ont déjà entreprises depuis la chute de Goma. Annick Bouvier, coordinatrice en communication du CICR, elle est au micro d'Innocent Olenga.
Vous savez que l'eau a été coupée à Goma. Nous avons fourni du carburant pour que les générateurs de la régie des eaux puissent permettre l'approvisionnement en eau de certains quartiers. Également de l'approvisionnement en médicaments, en matériel médical et une équipe chirurgicale à l'hôpital de Ndosho pour le traitement de très nombreux blessés de guerre. Les actions futures, bien sûr, elles concernent l'urgence humanitaire pour les populations déplacées, l'eau, la nourriture et également des messages publics très clairs pour le reste. Respect des structures médicales, le droit de tous les blessés à recevoir des soins, le droit du personnel soignant à être respecté et pour renforcer le message de la Croix-Rouge de RDC, laissez-nous s'il vous plaît accéder aux personnes les plus vulnérables et respecter l'emblème de la Croix-Rouge. Même dans les situations tendues, il y a certaines règles à observer et c'est une question de vie ou de mort.
Le Premier ministre est attendu demain vendredi au Sénat. Matata Ponyo devra fournir des explications sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Décision prise à l'unanimité par les sénateurs à la plénière de ce jeudi. Cette interpellation du Premier ministre est la conséquence de l'absence à Kinshasa de trois ministres convoqués antérieurement par le Sénat. Il s'agit des ministres de l'Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères. On écoute à ce sujet le sénateur Moïse Nyarugabo sur la nécessité de convoquer le Premier ministre. Il est au micro de Mimi Ngumba Mulongo.
Naturellement, c'est important et c'est opportun. Les sénateurs, à l'unanimité, ont demandé que soit le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères viennent et leur expliquer ce qui se passe. Il y a une série de questions qu'ils devaient leur poser, mais n'étant pas dans la capitale, ils ont demandé que le premier ministre, le chef du gouvernement vienne. C'est important pour les élus, ne fût-ce que d'avoir l'information par rapport aux événements, ce qui se passe avant que les élus ne donnent un avis ou des recommandations au gouvernement. Ils doivent avoir la vraie information. Ils ne peuvent pas se prononcer sur base de ce qu'on entend par les radios ou dans la rue. Le minimum, le gouvernement qui gère le pays du jour au jour doit dire ce qui se passe aux élus avant qu'ils se prononcent dans un sens ou dans un autre.
Dans un autre chapitre, au Katanga, la police nationale congolaise vient de déployer des policiers de l'unité d'intervention rapide dans les territoires de Pweto, district du Haut-Katanga. C'est pour renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens. Une nouvelle saluée par la société civile locale qui plaide toutefois pour une cohabitation pacifique entre la population et ses policiers. De son côté, le commissaire provincial de la police rassure que toutes les dispositions sont prises pour éviter d'éventuels dérapages de la part de ses policiers. Reportage Madeleine Waila.
Ils sont plus de 100 policiers d'intervention rapide qui sont arrivés il y a quelques jours à Kilwa, dans le territoire de Pweto. Sur place à Kilwa, la présence de ces policiers est diversement interprétée. Les uns apprécient et espèrent que ces nouveaux venus vont remplacer ceux qui avaient ouvert le feu il y a 2 semaines, tuant au passant 2 personnes et causant plusieurs blessés. Les autres craignent l'intensification de la tracasserie de la part de ces policiers. La société civile de Kilwa demande l'implication des autorités policières pour assurer la population que rien de pareil ne se fera.
L'autorité doit vraiment de faire en sorte que nos amis qui sont arrivés ici soient pris en charge. Des fois, on voit certains parmi eux faire des petites demandes auprès des gens et on risque d'être pris dans le feu un jour ou l'autre.
Le commissaire provincial de la PNC précise que l'initiative était prise après les derniers événements malheureux qui ont eu lieu à Kilwa entre la police et la population locale. Quant à la cohabitation pacifique que sollicite la population de Kilwa avec les éléments déployés, le commissaire Patrick Sabiti rassure que toutes les dispositions sont prises pour éviter les éventuels débordements ou toute tracasserie de la part de ces policiers. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
5 jours après sa déchéance, l'ancien vice-président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur sort du silence. Dans un point de presse hier à Mbandaka, Richard Mboyo Iluka s'est dit victime de sa position politique. Il a dénoncé en outre ce qu'il qualifie de règlement des comptes et de complot tramé contre les institutions provinciales par des politiciens de l'Équateur basés à Kinshasa. Ce député provincial élu de Buendia a aussi fustigé l'ingérence du gouvernement central. Richard Mboyo au micro de Paul-Richard Malingela.
Nous le savions depuis longtemps. Et il y a des SMS de certains politiciens de l'Équateur habitant Kinshasa qui montrent effectivement qu'il y a un complot qui a été monté. Après avoir démembré les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, ils vont attaquer au gouverneur de province. Hier, il y a un député qui a fait une motion d'information. Cette motion contre le gouverneur devait être déposée pour les collègues. J'ai constitué un obstacle. Il fallait donc me régler les comptes. Pourquoi je défends farouchement le gouverneur? Je ne défends pas farouchement le gouverneur. Mais j'aimerais que lorsque nous posons des actes, nous les posions en tant que responsables et avec les
Mais vous acceptez quand même votre déchéance.
Bon, les collègues ont décidé que je quitte les bureaux, je quitte, mais je reste député. Personne ne va me déchoir comme député.
Allez-vous aussi intenter une action judiciaire comme l'a fait le président Kili?
Non, j'ai reproché à mes collègues c'est de m'avoir pas donné le temps de me défendre contre l'acte irrégulier posé lors de la convocation non régulière de la plénière.
Et puis au Bandundu, le centre de santé de Kabuba connaît d'énormes difficultés de fonctionnement. Il se trouve dans le secteur de Bukangalonzo, territoire de Kenge. Les malades qui devraient normalement être internés sont renvoyés à la maison parce que le centre manque de médicaments pour les soigner. D'autres précisions avec Fabien Kambinzi, mais d'avance, nous présentons nos excuses pour la qualité de ce son. La ligne téléphonique avec Ikwit n'était pas bonne aujourd'hui.
Il est à 180 km à l'est de Kinshasa sur la nationale numéro 1. Ce centre de santé n'a jamais été pris en charge par l'État. Il manque de matériel de base et de médicaments de première nécessité pour soigner leurs malades. Quelques malades éternués passent la nuit à même les sols et les autres sur les bas. Constaté récemment par une mission des observateurs militaires des Nations Unies en mission dans cette partie de la province. Le personnel soignant trouvé sur place dit préférer s'afficher les salaires. Plus grave, et malgré les non-paiements des salaires, Ces agents mènent à bon en charge le séjour du médecin superviseur en provenance de la zone de santé de Bobo. Ils appellent cependant les autorités tant provinciales que nationales à leur venir en aide, car ce centre de santé se trouve sur la nationale numéro 1 et compte plus de 300 ménages qui doivent se faire soigner en son sein. Fabien Cambizi, Radio Okapi.
Merci Fabien, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.